première fois que la tâche est apparue, personne n'y a pris garde. C'était sur la place du marché de Perlin, un jour de vent mauvais et de col remonté. Il n'est pas étonnant que le phénomène soit passé inaperçu. Même le marchand qui tenait son étal en cet endroit n'a rien vu. Il l'aurait dit, lorsqu'il descend de sa montagne, avec sa bête, le dos chargé de ses noix, il emporte toujours quelques histoires avec lui de là-haut, blanches comme les avalanches. S'il avait aperçu la tâche, il l'aurait dit, c'est sûr. Et toute la place aurait été au courant, aussi vite que le vent fustigeait les pavés. Les oreilles d'abord, puis des oreilles aux bouches et de ces bouches à d'autres oreilles. C'est ce que font tous les bruits qui courent. Les jours suivants non plus. La tâche grandissait, s'étalait, prenait ses aises, glissait d'un pavé à l'autre, sans bruit ni vergogne. Il fallut que le petit machin, fils de machine, arrivé là sans avoir de nom, un ventre rond et un petit machin dedans, soit surpris à jouer avec ses bateaux en papier pour qu'on remarquât la tâche. Elle ressemblait à une eau tranquille. C'était une tâche bleue. Machin avait posé ses esquifs dessus et on les voyait, toutes voiles dehors, traverser le plan de part en part. Un souffle suffisait. Si l'on regardait bien, chaque fois qu'un voilier de papier changeait de bord, une vague minuscule en cercle concentrique agrandissait la tâche. C'est la mère Girard, la boulangère dodue, qui vit le petit machin. Elle lui flanqua une taloche, laissant une marque de farine bise sur la joue du gamin. Machin hurla, ses larmes en forme de mots. Machine arriva, elle cria aussi, dit que ce n'était pas lui, pas eux, que la boulangère leur cherchait toujours des noises. En vociférant, elle piétinait la tâche et chaque pas provoquait une tempête. Les soubresauts, en retombant, agrandissaient le bleu. Alors quelqu'un a dit « Arrêtez !» Il le répéta plus fort parce que personne ne prêtait attention. La tache bleue tripla de surface, glissa sous les godasses des badauds accourus. C'est à ce moment-là qu'on entendit la voix de l'autre. La stupeur arrêta tout le monde. Le cercle s'écarta pour faire ronde. Il y eut des « oh » et des « oh » des « oulala ». Mais le bleu ne laissant de marque ni sur les chaussures, ni sur les vêtements, quelques-uns commencèrent à rigoler. Les plus jeunes sautèrent à pieds joints et les éclaboussures enflèrent la surface de la chose bleue. En quelques minutes, tout le village débarqua sur la place. Elle fut d'abord noire de monde, à coups de pied d'abord, de corps perdu ensuite, car certains n'hésitèrent pas à s'y rouler. On vit le bleu prendre le dessus sur le noir, déborder les ruelles, passer le pont, s'échouer au pied des maisons, les enjamber, grimper aux arbres, atteindre un toit, un autre, jusqu'à avaler tout un pâté d'habitations. C'est alors que la maréchaussée débarqua. On entendit l'inquiétude de coups de sifflet. Le commandant demanda le nom des meneurs et tout le monde pointa du doigt la grosse boulangère et la poupée mécanique. Elles furent emmenées illico. Le lendemain, une cohorte de nettoyeurs débarqua des Potrominets. Ils étaient équipés de grandes brosses en paille, de seaux en bois de chêne et de savon de Marseille. En rang d'oignons, ils s'alignèrent à l'est de la place, du côté du soleil levant, et commencèrent le grand nettoyage. Les habitants les encourageaient à coups de « holà joyeux ». Lorsqu'un seau était répandu, 8 bras frottaient, frottaient, frottaient encore à en user la pierre. Très vite, on s'aperçut que les brosses étaient impuissantes. Les nettoyeurs, malgré leur danse ménagère, ne parvenaient à rien. L'enthousiasme se tarit. Les cris d'encouragement se transformèrent en boutades, en quolibets, en insultes. Incapables, ils étaient. La surprise vint de l'ouest. La tâche, entraînée par les mouvements de balai, les grandes eaux et la pente naturelle du village, s'était étendue, avait débordé les frontières et s'écoulait maintenant en direction de la commune voisine. Les jours suivants, le village fut mis en quarantaine. Un décret urgent interdit aux gens de sortir, ne serait-ce qu'un nez rouge de chez eux. L'épidémie, c'est ainsi qu'elle fut nommée pour la première fois dans l'édit estampillé par le roi, devait être circonscrite au patelin coupable. Et on construisit une muraille immense, démesurée, si haute qu'elle touchait les nuages, autour de Perlin. Dans le pays, des voix s'élevèrent pour que le lieu disparaisse à jamais. Qu'on enfouisse, qu'on enterre, qu'on inonde, qu'on oublie. Chacun y allait de sa solution. Certains comparèrent l'événement à la grande peste qui ravagea le pays il y a longtemps. Or, personne ne mourait. Les gens n'en étaient pas le moins du monde affectés. On pouvait la saisir, en faire des bulles, des balles. On organisa des batailles de boules de bleu. Mais les épidermes n'en gardaient aucune trace. On remarqua une recrudescence d'enfants aux yeux bleus, mais on conclut que l'épidémie n'en était pas responsable, à peine une nostalgie qui plane dans ses regards céruléens. Les vêtements, un temps préservés, commencèrent à prendre de la couleur. Le premier à porter un pantalon de toile bleue, légèrement délavé, était un certain Lewis, un vendeur de clous, rêveur de grands espaces. Le mur de Perlin limita son horizon. Le boucher vendit de la viande bleue, la femme des forges sortit sa bicyclette, jusqu'au médecin du village qui soigna les bleus à l'âme, de plus en plus nombreux à mesure de l'isolement prolongé. Lorsque tout fut bleu, que plus un seul objet n'échappa à la couleur du temps, on s'ennuya énormément et on mourut plus encore. Les petites morts bleues sont les plus sûres. Les morts d'ennui sont lentes et cruelles, sans espoir, définitives. Le pharmacien se suicida le premier. Il prit un bain de bleu de méthylène et disparut aux yeux de tous. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Les habitants de Perlin mourant à petit feu, les uns après les autres, affamés et oubliés derrière leurs murs. Un jour, pourtant, le petit machin fit sécher une poignée de taches bleues. Ah, il avait grandi, le malin. Le procédé qu'il employa pour sécher la tache reste un mystère. Mais le résultat est resté dans les mémoires sous le nom de poudre de Perlin. Un truc qu'on utilise encore communément pour dire n'importe quoi. Alors qu'il transportait sa poudre, un vent plus malin encore le fit éternuer. Il lâcha la fiole qui net se brisa, laissant échapper son contenu volatile. Le vent s'en empara. Il ne manquait pas d'air. Parti dans les hauteurs où la poudre se mêla aux nuages. Plus tard, on apprit que l'épidémie avait fait son nid ailleurs et plus rien ne put l'arrêter jusqu'à couvrir le globe entier. On avait oublié cette histoire ancienne jusqu'au jour où un certain Armstrong, Neil Armstrong, lointain descendant du petit machin, le confirma. De la Lune, où il fut le premier homme à poser le pied, la terre était bleue.
Without a love on my own, the moon, not just what I was there for. You want me saying a prayer for someone I really care for, and then it suddenly appeared before me, the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, "Please adore me," and when I looked, the moon turned to gold. Yeah.
suddenly appear before me. The only one on this way home. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon turned to gold, gold.